Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé par Bertie Bourdon, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Dalia. Que ce soit en Iran, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, chez les Kurdes, en Turquie, en Irak et même dans une partie de l'Inde, à l'instant précis de l'équinoxe du printemps, même si la fête dure souvent 15 jours, Nowruz, le nouvel an du calendrier persan, est célébré cette semaine et nous en parlons dans Culture Monde comme fait culturel et social. Aujourd'hui en Afghanistan, où depuis le retour des talibans au pouvoir, Nowruz est toujours fêté, mais en catimini.
Nowruz, comme son nom l'indique, c'est la célébration de la renaissance de la nature. C'est ça que l'on fête. Nous préparons chaque année les mêmes plats, comme le veut notre tradition. Il y a par exemple les olives, le samanak, le sabzeh, qui sont des symboles du printemps.
Depuis l'établissement de l'émirat islamique d'Afghanistan, il y a de nouvelles règles et les choses que l'on faisait avant sont beaucoup plus encadrées. Mais ça ne pose pas de problème que les gens sortent pour pique-niquer ou faire un peu la fête. Tout le monde peut aller pique-niquer.
J'ai beaucoup de bons souvenirs de Nowruz, mais tous ne le sont pas, notamment un. C'était juste avant Nowruz, un notable de Kaboul est venu nous voir, il était très inquiet, comme beaucoup de Kaboulis à cette époque. Parce que sous le règne des talibans, il était interdit de célébrer Nowruz. On ne pouvait pas célébrer la nouvelle année.
Interdit de célébrer Nowruz, bannir le sentiment de la fête, prohiber l'ivresse de la liesse collective, interdire surtout une fête millénaire et qui n'a donc rien à voir avec l'islam. Les mollahs de la République islamique d'Iran ont essayé, on en parlait lundi, ils n'ont pas réussi. En Afghanistan, les talibans essaient de leur côté de se faire obéir. Obéir jusqu'à quel point ? Fête habituellement populaire et ostentatoire, Nowruz peut aussi se fêter dans l'intimité des maisons, autour des sept plat du haftin et de la chaleur familiale. Pendant le premier règne des talibans de 1996 à 2001, les Afghans avaient, paraît-il, réussi à maintenir bon an mal an cette coutume. Au-delà de Nowruz, c'est tout un pan culturel de tradition persane que les talibans pachtounes veulent remettre en cause. Eux-mêmes sont originaires du sud du pays où ont été élevés dans les camps de réfugiés au Pakistan. Ils n'ont pas eu accès aux persans et tentent aujourd'hui de donner une plus grande place à leur langue, le pachto. Alors, quelles fractures et tensions culturelles révèlent l'interdiction de la fête de Nowruz en plus des arguments religieux ? Pourquoi le Dari, langue persane, est considéré comme une langue étrangère alors qu'il est parlé par une grande partie des Afghans ? Face aux attaques de cette sorte de police du langage, qui se revendique aujourd'hui d'une culture persane ? Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Alessandro Monsuti.
Bonjour à vous et merci de me convier à la discussion.
Merci à vous. Vous êtes professeur d'anthropologie et de sociologie au Geneva Graduate Institute. Vous êtes auteur de Homo Itinérance, la planète des Afghans, paru il y a quelques années, en 2018, aux presses universitaires de France. Nous sommes ici en studio avec Belraïs Jafari Alavi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes enseignante à l'INALCO, chercheuse en littérature contemporaine afghane, traductrice. Alors Belraïs Jafari Alavi, d'abord, à quoi ressemble cette année la ville de Mazar-e-Sharif, qui est un des lieux phares de cette fête en Afghanistan? À quoi ressemble Nowruz depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021?
Dès 2022, les talibans ils ont interdit toute festivité de Nowruz dans les espaces publics. Donc Mazar était un grand lieu de pèlerinage, vu le sanctuaire, la mosquée bleue, qui date du 16e siècle, 15e siècle. Et chaque année, c'est un grand lieu de célébration officielle, mais aussi très très populaire de Nowruz. Les milliers d'Afghans de tout l'Afghanistan se précipitaient pour se réunir, être là le premier jour de Nowruz, pour être là dans la cérémonie qui s'appelle Jahan-e-Bala. C'est une cérémonie qui consiste en hisser un drapeau multicolore Et donc en présence de milliers de spectateurs et de pèlerins, donc cette cérémonie a lieu normalement au sein, dans la cour de la mosquée bleue de Mazar. Et après, cette cérémonie a été suivie aussi par d'autres festivités, dont le festival ou la fête de fleurs rouges Milay Golesor, qui se faisait normalement au moins pendant 40 jours après l'arrivée de Nowruz. Donc, depuis 2 ans, donc, il n'y avait pas, en Afghanistan, il n'y avait aucune festivité en lieu public. Donc, les talibans, ils ont entièrement interdit, mais ils ont dit que, voilà, donc, il n'y a rien à voir à d'autres festivités, mais qui se fait à l'intérieur, dans les espaces privés.
Ils ont dit qu'à la place de cette grande fête, s'ils organiseraient des compétitions sportives, notamment de Palavani, la lutte afghane, ou des programmes culturels, c'est ce qu'ils ont dit, notamment pour cette ville de Mazar-e-Sharif, et donc, donc des cérémonies à laquelle assistaient habituellement des politiques afghans, des hauts fonctionnaires parfois. Exactement. Et on y venait parfois de très très loin, Kandahar dans le sud, Herat dans l'ouest, Kaboul, des touristes afghans qui venaient en nombre pour voir ces couleurs dans la rue. Il faut imaginer les couleurs qu'il y avait aux fenêtres.
Exactement. En fait, pareil, donc, comme Mazar, donc, il y avait aussi la même cérémonie à Kaboul, mais aussi par exemple à Bamiyan, à Herat, dans d'autres lieux. Donc c'est intéressant. Nowruz, donc c'est toujours en Afghanistan. Il y a un mélange de traditions très très anciennes, pré-islamiques, mais aussi les pratiques modernes, mais aussi les pratiques culturelles qui se relèvent de la culture islamique. Et c'est pourquoi donc ce rassemblement dans un lieu de pèlerinage, un lieu saint pour les sunnites et chiites, c'était aussi à la fois donc un haut lieu d'une certaine manière union des sunnites et des chiites. Donc il y avait vraiment, donc à Mazar ou par exemple à Kaboul, surtout à Mazar, il y avait tous les sunnites et les chiites qui se rassemblaient. Et donc d'une certaine manière, c'était une transcendance de toutes ces frontières ethniques, religieuses et politiques.
Et les habitants qui sortent leurs tapis aux fenêtres, parce qu'il faut faire un grand ménage avant Nowruz, et ça change littéralement une ville d'avoir tous les tapis des intérieurs aux fenêtres des maisons.
Exactement, donc beaucoup de préparatifs, donc il y a beaucoup de ressemblances aussi donc avec chez aussi d'autres peuples qui célèbrent Nowruz, comme en Iran, au Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Turquie. Donc il y a beaucoup de préparatifs, bien 2 semaines, 3 semaines avant, tout d'abord. Donc là, il y a une pratique très très ancienne qu'on appelle Khana Takani, ça veut dire il faut secouer donc la maison, ça veut dire il faut nettoyer entièrement, laver le tapis, peindre la maison, et ça se fait il faut se préparer entièrement la maison, mais aussi soi-même, pour pouvoir être capable d'accueillir le printemps, la renaissance de la nature.
Alessandro Monsuti, pourquoi cette ville de Mazar-e-Sharif? Pourquoi la 4e plus grande ville du pays? Elle est située tout près des frontières avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Pourquoi cette ville-là est le cœur de Nowruz en Afghanistan, même si, comme le rappelait Belreïs Jafari à la vie, elle est fêtée, célébrée dans de nombreuses villes?
Ça a été dit, Mazar-e-Sharif, Mazar la Sainte est une ville particulière, c'est la capitale du Nord, qui est un peu à l'opposé du Sud, dont sont originaires les talibans. Elle, c'est surtout le lieu du supposé mausolée de l'imam Ali, donc le premier imam du chiisme, qui est aussi reconnu comme un calife par les sunnites. Mais c'est une région et c'est une ville qui a une connotation particulière pour les talibans. Souvenons-nous que lorsque les talibans ont pris la ville la première fois, il y a 25 ans environ, il y a eu une réaction populaire et des massacres mutuels. D'abord, les talibans ont été vaincus et ont été massacrés, puis ont repris la ville et ont commis des massacres. Donc, j'imagine que les talibans et leurs autorités ont une forme d'anxiété par rapport à des rassemblements populaires dans une ville qui, au fond, n'est pas leur fief.
Et une ville qui, par ailleurs, Alessandro Monsuti, compte beaucoup de Hazara, cette communauté qui semble s'être rapprochée de l'Iran au fil des migrations et des retours.
Oui, c'est une ville, très mélangée, ça a été dit. Il y a beaucoup d'Ouzbeks, de Tadjiks et de Hazaras. Il y a aussi des Pashtuns. Mais c'est une ville dont la vie sociale est organisée autour de la mosquée bleue qui a été mentionnée et qui permet aussi des rencontres entre les traditions pré-islamiques que représente Nowruz, mais aussi des traditions populaires de l'islam, non seulement chiites autour de la figure de l'imam Hussein, mais aussi soufis. Et c'est des choses qui sont entourées de méfiance de la part des talibans. Mais c'est vrai que les Hazaras sont très représentés à Mazar et ont cette histoire de tension politique avec les talibans, plus peut-être que d'autres groupes.
Les Hazaras qui donc semblent accorder une place à des fêtes considérées comme chiites, même si elles ne le sont pas du tout. Et on rappelle depuis le début de cette série que Nowruz est bien une fête pré-islamique, mais très largement célébrée en Iran. Belrej Jafari Alavi, un mot sur les Hazaras. Ce sont en effet des hommes et des femmes qui se sont une communauté qui s'est rapprochée de l'Iran au fil des migrations. Mais on ne peut pas pour autant parler en Afghanistan de groupes ethniques perses, de groupes ethniques iraniens. Ça ne veut rien dire.
On ne parle pas d'un groupe ethnique iranien. On parle des Hazaras en tant qu'une minorité religieuse ethnique. Voilà, donc vu qu'ils sont en grande majorité chiites par rapport à la majorité sunnite en Afghanistan. Mais parler d'une minorité perse, donc ou bien persane, d'un point de vue linguistique, c'est pas du tout vrai parce que le persan. Alors tout d'abord, donc j'aimerais bien souligner que quand on parle du persan en Afghanistan, on ne parle pas du tout d'une langue, d'un groupe ethnique particulier. Donc c'est pas du tout, on ne peut pas du tout limiter cette langue dans une frontière ethnique ou même religieuse. Voilà, donc c'est vraiment une langue qui a dépassé cette frontière. Et donc il faut voir donc l'héritage du persan. Donc cette langue qui était la langue la plus importante dans la culture islamique après l'arabe, normalement, qui a beaucoup aidé, contribué au développement de la culture, des différentes cultures de l'islam dans toute la région, mais aussi au-delà de la religion. Et dans cette partie qu'on connaît maintenant, voilà, au nom d'Afghanistan, mais à l'Afghanistan actuel, donc en moderne, on peut dire, a été créé en 1747, mais bien avant, donc cette région, voilà, donc l'Afghanistan se relevait du monde iranien, donc a été régné par différentes dynasties. Le persan n'a jamais été remplacé. On n'a pu jamais être remplacé par d'autres langues, même des peuples qui ont envahi la région. Ça veut dire la grande, vaste région, cette aire géographique étendue entre l'Iran actuel, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Donc c'était toujours tous les envahisseurs. Donc ils ont adopté le persan parce que c'était la langue, la haute langue de la culture, voilà, donc de la littérature, du savoir et de la science.
Alors en effet, l'usage de la langue en Afghanistan fait partie de ces fractures qu'on va étudier tout au long de cette discussion, puisque Nowruz, cette fête est un point de départ pour évoquer ces fractures-là. Alors c'est une fête entre guillemets œcuménique. Il me semble même que certains Pachtounes la fêtent aussi, mais c'est une fête dont on rappelle depuis lundi qu'elle est pré-islamique, qu'elle est antérieure à l'apparition de l'islam. Est-ce qu'avant même les talibans, cette fête a déjà posé problème aux autorités afghanes, Alessandro Monsuti, notamment quand il s'agissait de construire un nationalisme afghan ?
Je souhaiterais appuyer vraiment les propos de Belrej Jafari. Le persan est une langue supranationale, c'est une langue de haute culture régionale qui unit vraiment des pays aujourd'hui séparés par des frontières internationales, mais qui ne l'étaient pas dans le passé. Donc le nationalisme afghan a toujours été un tout petit peu hybride entre une référence à cette grande culture, mais qui va bien au-delà des frontières du pays, et peut-être l'expression Pashtun, avec cette caractéristique un peu particulière, cette ambivalence, c'est que les Pashtuns ont été politiquement dominants, mais ont peut-être toujours ressenti d'avoir été culturellement dominés par la langue persane. Et en Afghanistan, le persan est officiellement, en tout cas, au niveau du gouvernement, c'est pas toujours forcément ainsi au niveau de la population, mais est appelé Dari, le Farsi Dari, le persan de cour, dans une volonté de valoriser la variété de persan qui est parlé en Afghanistan, comme peut-être une variété de langue particulièrement pure.
Alors, si vous le voulez bien, Alessandro Monsuti, parce qu'on va vraiment prendre le temps de parler de la langue, mais pour rester sur Nowruz et cette fête-là, cette fête célébrée aujourd'hui en Afghanistan dans des conditions différentes de celles d'avant l'arrivée des talibans, quels échos vous en avez, Alessandro Monsuti ? Est-ce que vous savez si elle est aujourd'hui interdite partout, ou surtout à Mazar-e-Sharif, parce que c'est là qu'elle est habituellement la plus visible et la plus célébrée ? Qu'est-ce que vous en savez des échos que vous avez sur le terrain, parce que vous allez très régulièrement en Afghanistan ?
Oui. Oui, alors je retourne en Afghanistan. Je suis retourné en Afghanistan après l'été 2021 et la chute de Kaboul dans les mains des talibans. Pour préparer cette émission, j'ai fait quelques téléphones, puisqu'il est possible maintenant de parler même par WhatsApp au fin fond du Hazarajat ou à Mazar ou à Kaboul. Alors j'ai parlé par exemple à un Pashtun qui a été même un combattant taliban et qui lui me disait que il célébrait ce qu'il appelait aussi le Jashn-e-Dekan, la fête des paysans, le 22 mars, mais c'est lié aux célébrations de Nowruz. Et lui ne me parlait pas d'une interdiction stricte de la célébration du Nowruz, mais plutôt d'une campagne de discrédit d'une fête pré-islamique. J'ai aussi pu parler à un vieil ami Hazara du fin fond de la province de Ghazni, qui lui me disait... tant qu'on va pique-niquer comme on le faisait dans le passé et qu'on célèbre Nowruz comme on le faisait dans le passé avec le Haft Mewa, les sept fruits, hein, qui sont plus présents, je crois, en Afghanistan que les Haft Sin de l'Iran, même si ça existe aussi. Lui disait, les talibans ne font pas de problème. Je pense qu'ils ont vraiment un problème avec les célébrations très somptuaires de Mazar-i-Sharif parce que, justement, peut-être, ils ont aussi la crainte que ce rassemblement populaire très massif puisse devenir le vecteur d'une contestation de leur régime. Donc j'imagine qu'il y a une méfiance politique d'abord devant ce qui se passait à Mazar, plus que peut-être une volonté d'interdire absolument la célébration de Nowruz dans une sphère plus discrète et plus privée.
Voire même parfois de garder le contrôle sur la fête en organisant eux-mêmes la fête, si j'ai bien compris. C'est arrivé, Alessandro Monsuti, dans les coups de fil que vous avez passés, d'apprendre que ici et là, des talibans organisaient eux-mêmes Nowruz.
En tout cas, vous l'avez dit d'ailleurs en entrée d'émission, que les talibans avaient proposé avaient organisé des choses un peu alternatives, comme des joutes sportives, le Palawani. Donc c'est une manière de prendre le contrôle de la fête pour mieux, effectivement, éviter des débordements potentiels. Donc je crois qu'il y a une vraie volonté politique de contrôle ici. Et tant que la fête reste politiquement, disons, non pertinente, ça ne leur pose pas tellement de problèmes. La question de Mazar, c'est ça, c'est des gens qui se réfèrent de façon, je dirais, syncrétique, une hybridation historique entre des références à l'islam avant l'islam et des références à l'imam Ali. Ça, c'est des choses dans une ville qui a été une pomme de discorde entre les talibans et leurs opposants. J'imagine que ça les inquiète et ils cherchent à éviter toute forme d'expression politique autour du Nowruz.
Et ils préfèrent donc parler de jour des paysans plutôt que d'une fête pré-islamique. Alors je crois que le jour des paysans, on en parlait déjà bien avant les talibans. C'était déjà une expression employée pour parler de cette fête-là, détourner le regard des origines pré-islamiques de cette fête. Et pour les talibans, il y a seulement deux fêtes dans l'islam, celle de la rupture du jeûne du Ramadan et l'Aïd, Aïd al-Adha. Alors quand, Belraïs Jafari Alavi, quand Nowruz est-elle devenue une revendication, c'est-à-dire des persophones ou des communautés ethniques qui s'identifient à la culture persane contre les fondamentalistes, quels qu'ils soient, à quel moment est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu une forme de revendication d'une certaine identité ?
Avant de répondre à votre question, oui, j'aimerais bien juste ajouter que cette année-là, donc il y a une nouveauté, parce que j'ai mis du temps à parler aussi avec des amis, voilà, donc dans la ville d'Herat, à Bamiyan, à Kaboul, à Mazar, pour voir alors comment ça se passe cette année. Tout d'abord, donc cette année, donc le Nowruz, donc a été grandement donc marqué surtout par cette interdiction faite aux femmes pour l'enseignement supérieur, mais aussi de travailler dans les organisations internationales. Le deuxième jour de Nowruz en Afghanistan, c'était la rentrée scolaire et universitaire. Les talibans, à partir d'aujourd'hui, ils ont déplacé le calendrier. Donc aujourd'hui, ils l'ont appelé Rouze Maorif, ça veut dire la journée de l'éducation. Ça veut dire aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire.
Le 20 mars.
Exactement, aujourd'hui. Ça veut dire premier jour de Nowruz, parce qu'ils ont annulé... Dès la première année, ils ont annulé donc le jour de congé, donc il n'y a plus un jour de congé.
Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé le jour journée de l'éducation.
Exactement, ça veut dire à la place du deuxième jour de Nowruz qui était la rentrée scolaire, Donc cette année, aujourd'hui, normalement, voilà, donc tous les élèves et les étudiants, ils ont repris l'école dès aujourd'hui. Donc normalement, donc il n'y a eu aucune célébration, normalement pas dans l'espace public, et puis tout cela, ça sera ce soir, donc à l'intérieur des maisons.
Oui, parce qu'en plus, ça se juxtapose au Ramadan, et donc il faut bien sûr combiner les horaires. Bref, pardon, je vous laisse continuer.
Oui, et puis voilà, donc aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire, et donc toujours, donc c'est... depuis 2021 et l'arrivée au pouvoir des talibans et l'interdiction de l'enseignement supérieur aux filles, mais aussi l'enseignement supérieur. Donc toujours maintenant, Nowruz, le nouvel an, on n'annonce pas du tout la joie et la renaissance, parce que ça c'est un renouvellement du confinement des femmes, de cette interdiction et voilà donc imposée par les talibans, et voilà donc les étudiantes et les jeunes filles attendaient peut-être, voilà, donc une réouverture des écoles. Donc cette année, ça n'a pas eu lieu. Voilà, donc, et cette année, Nowruz a également été perturbée aussi par la grande crise financière, économique qui touche une grande majorité des familles afghanes. Et puis après, oui.
L'année dernière, quand les gens venaient nous acheter du sabzi et du samanak, les prix étaient encore plus élevés, mais ils avaient un meilleur pouvoir d'achat et ils achetaient. Par exemple, s'ils voulaient acheter du samanak, ils achetaient un kilo. Mais maintenant, ils ne peuvent plus acheter. Ils achètent seulement un demi-kilo parce qu'ils n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, les gens n'achètent plus.
Un témoignage recueilli par Mizima TV. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette fête de Nowruz qui est coûteuse, Alessandro Monsuti? Ce sont des dépenses que d'offrir le JT le couvert à sa propre famille, pas les sept plats qui commencent par un S, mais les sept fruits, vous nous le disiez tout à l'heure. On est à la fois dans un contexte de hausse des prix, puisque les Américains ont mis fin à l'aide sécuritaire et l'aide civile, 9 milliards d'actifs de la Banque centrale afghane qui ont été gelés, mais aussi des femmes qui travaillent moins, enfin toutes les femmes ne travaillent plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans cette fête, même dans l'intimité de cette fête, est-ce que cela s'en ressent sur la façon dont cette festivité est aujourd'hui célébrée?
Oui, sans aucun doute. Vous savez, je suis anthropologue et donc les anthropologues ont toujours insisté sur le rôle social de la dépense. On dépense pour... on détruit des biens matériels pour construire des biens immatériels, c'est-à-dire des relations sociales. La fête, c'est une chose qui peut sembler irrationnelle. Ça semble irrationnel à tous les réformistes, à tous les, je dirais, réformistes religieux, mais aussi aux gens qui veulent promouvoir une économie rationnelle. Mais la dépense ostentatoire, c'est ce qui crée le lien social. Déjà, Marcel Mauss, il y a plus d'un siècle, nous l'avait enseigné. Donc, célébrer, dépenser, détruire des biens matériels en les mangeant, c'est une chose absolument essentielle à la reproduction sociale. Et aujourd'hui, l'Afghanistan, ça a été dit, fait face à une terrible crise économique qui a des causes multiples, probablement la mauvaise gestion des talibans, mais surtout l'embargo auquel le pays est soumis au niveau international, et comme vous le disiez aussi, le gel des avoirs de la banque afghane à New York, qui est une chose assez immorale d'ailleurs, puisque le président Biden avait parlé pendant un moment, d'utiliser cet argent pour rembourser et dédommager les victimes du 11 septembre 2001. Mais cet argent appartient au peuple d'Afghanistan, d'abord, et pas aux talibans. Et il faut tout de même se souvenir qu'aujourd'hui, encore une fois, la population de l'Afghanistan est dans une situation de grande souffrance pour des causes qui sont multiples.
Alors, revenons sur Nowruz, qui... comme révélateur qui confirme des tensions culturelles qui existent en Afghanistan, mais aussi linguistiques, et vous avez tous les deux commencé à l'évoquer parce que ça peut paraître éloigné de cette fête de Nowruz, et en fait c'est le cœur du sujet en Afghanistan, ces tensions culturelles que l'on va tâcher de comprendre à travers la langue, les langues, puisqu'il existe en Afghanistan deux langues officielles, le Dari, une langue qui est persane, qui est proche du farsi iranien, et le Pashto. L'Afghanistan reconnaît donc ces deux langues comme officielles. Alors de quelle tension parle-t-on, Belrej Jafari Alavi? D'abord, pourquoi le Dari est devenu progressivement la langue de l'élite afghane?
Ou le persan? Comment
le Dari en fait, proche oui. du persan, si oui, j'ai bien en fait, compris.
Oui, le Dari, donc voilà, il faut juste souligner que donc le Dari, c'est le nom qui a été entrée dans la constitution afghane de 1964 et a remplacé le nom Farsi, persan. Donc, Dari, en fait, c'était une appellation de cette langue, mais dès le 9e, 10e, 11e siècle, quand on parle de la littérature classique persane des premiers siècles, et puis de l'émergence du persan moderne, qui a été dérivé du persan moyen, en général, on dit Farsi et Dari. Depuis plusieurs siècles, donc cette langue a été connue en Iran, en Afghanistan, voilà, et aussi au Tadjikistan, dans toute la région, au nom de Farsi, persan, pas le Dari. En 1964, donc les nationalistes afghans, ils ont modifié le nom de la langue. En fait, c'était d'une certaine manière, à la suite des efforts, d'une certaine manière, de nationaliser une langue, ou plutôt les langues nationales, et aussi une tentative de marginaliser le persan et de séparer donc les persanophones, voilà, donc de leur des Iraniens ou bien des voilà d'autres persanophones dans la région. Et il faut le voir aussi plutôt donc il faut avoir aussi donc cette politique linguistique voilà, culturelle des autorités afghanes, de la monarchie afghane, qui commence plutôt dès le début du XXe siècle et qui s'intensifie dans les années 30, 40 jusqu'aux années 80.
Est-ce que les Pashtuns du sud du pays, et c'est de là principalement que viennent les talibans, est-ce qu'ils connaissent le Dari, Alessandro Monsuti? Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils savent le parler?
Alors, très certainement moins que dans le passé. L'expérience de toutes ces années de guerre, depuis la fin des années 70, la première révolution communiste, en avril 78, beaucoup, des millions d'Afghans sont partis prendre refuge en Iran et au Pakistan. Au Pakistan, la grande majorité de ces réfugiés afghans étaient Pashtuns, et cette expérience de l'exil les a aussi les a éloignés de la langue persane et de la culture persane. Dans le passé, les élites Pashtuns, en s'urbanisant, se persianisaient, avec cette idée quand même que beaucoup de Pashtuns étaient assez amers envers le fait que la famille royale elle-même, Pashtun ethniquement, parlait persan et que le roi
Zahir Shah... C'était la langue de l'élite.
Voilà, c'était la langue de l'élite. Et en devenant urbain, en devenant aussi leader du pays, on passait au persan. On dit que le roi Zahir Shah, qui a été détrôné en 73, devait prendre des cours de pashto, la langue de ses ancêtres, parce qu'il ne le parlait pas couramment. Et ça pouvait provoquer une des réactions assez négatives de rejet de la part des pashtunophones, qui se sentaient dominés culturellement par des élites qui étaient issues d'eux-mêmes. Et donc, effectivement, dans le passé, c'était assez naturel que les citadins, quels qu'ils soient d'origine régionale ou autre, parlaient très couramment le persan. Aujourd'hui, l'expérience de l'exil au Pakistan a changé la donne. J'ai rencontré, par exemple, un vice-ministre taliban, quand j'y suis allé il y a une année et un peu plus, qui ne parlait pas persan. On le sentait un peu gêné devant moi, mon persan d'étranger. Et lui, il parlait pashto, je pouvais un peu comprendre, il pouvait un peu me comprendre. Et puis, un de ses associés, qui était justement lui un pashtoun, un citadin de Kaboul, faisait le reste de la traduction. Mmh. Et on voit bien que les élites talibanes ont perdu le contact avec la culture persane, que dans le passé, était partagée aussi par les élites pashtunophones, pashtounes.
Donc, est-ce que les talibans ou les pashtunophones aujourd'hui, sans dire que tous les pashtunophones sont talibans, bien sûr, mais les talibans qui, pour la plupart, parlent le pashto, est-ce qu'ils rejettent la culture persane ou est-ce qu'ils en ont été exclus, Belraïs Jafari à la vie?
En fait, dès 15 août 2021, les talibans, ils ont montré d'une certaine manière une politique, une répression linguistique et culturelle en Afghanistan, mais c'est pas très, de manière très très affichée. C'est-à-dire, au fond, donc ça se fait d'une certaine manière. On assiste à une continuité dans la politique un peu hostile à l'égard de la langue persane en Afghanistan. Si on regarde en arrière, durant par exemple les 20 ans de la République islamique en Afghanistan, 2001 et 2021, il y avait toujours des débats parfois très très violents entre voilà, donc les deux camps, parce que donc il y avait une politique de réprimer d'une certaine manière la langue persane, mais au nom de d'une langue étrangère. Malheureusement, une des tragédies de l'Afghanistan moderne vient malheureusement de ce changement du nom en 1964. Donc, avec cette modification du nom de Farsi en Dari. Et puis après, il y avait également, après, toute la propagande pour faire croire à tout le monde qu'il s'agit, Farsi et Dari, il s'agit bien de deux langues différentes. Mmh. Et après, c'était ainsi que dans les années, par exemple, 80 ou bien avant, employer certains vocabulaires, surtout quand il s'agit, par exemple, de nouveaux vocabulaires ou bien trouver des équivalents pour des mots étrangers. Donc, c'était très, très difficile pour les écrivains afghans parce qu'ils étaient considérés comme les très, très proches de l'Iran ou bien ceux qui préfèrent utiliser des mots étrangers. Mmh. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Il y avait toujours des débats et parfois, ça a donné lieu à même à des violences. À des mortes, par exemple, un exemple très très anodin mais symbolique, c'est l'emploi, par exemple, du l'équivalent pour dire université en Afghanistan, où tu as emploi du mot persan Danishgah ou bien pour entendre le terme pashto. Et ça continue jusqu'à maintenant. Les talibans, quand ils sont arrivés au pouvoir, tout de suite ils ont changé la pancarte de l'université de Mazar qui était dans Danishgah en Pointon. Et voilà, donc ça. Et puis ça, voilà, ça a continué dans d'autres lieux.
Est-ce que ça dit quelque chose, Alessandro Monsouti? Et qu'est-ce que ça dit, rien que ce mot-là, le mot université que les talibans ont changé, ont imposé en pashto, qu'est-ce que ça dit aussi de, d'abord, comment est-ce qu'ils font pour imposer cette, une sorte de police des mots? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment un contrôle de l'usage des mots? Et ce mot université-là, il est quand même important quand on voit comment les talibans aujourd'hui considèrent l'éducation, notamment des femmes.
Alors, le débat entre terminologique entre Pashtun et Danishgah a précédé le retour des talibans au pouvoir en été 2021. Déjà, je crois que Belrais Jafari le disait, même pendant la République islamique, donc les 20 ans qui ont précédé, vous aviez des débats assez vifs sur la dénomination de l'université qui est l'expression la plus haute de l'éducation. Alors maintenant, est-ce que les talibans, je ne sais pas exactement quelle politique a été mise en place pour purger la langue officielle des termes persans. J'imagine qu'il s'agissait simplement ici de changer la plaque à l'entrée de l'université. Mais au-delà de l'opposition entre Pashtun et non-Pashtun, il y a aussi, malgré tout, une opposition historique entre citadins et ruraux. Les talibans ne sont pas seulement Pashtun, c'est aussi des gens qui sont issus du monde rural et qui ont justement grandi bien souvent en exil au Pakistan, loin des centres culturels de leur propre pays. Ils en sont un peu divorcés. Et donc, il y a aussi cette opposition des ruraux pashtunophones qui sont coupés des grands centres culturels persans envers les citadins que peut-être dans le passé, les pashtunophones urbanisés ne ressentaient pas avec la même véhémence, la même, disons, force. Donc, cette opposition entre citadins et ruraux, à mon avis, est une clé de lecture complémentaire à celle culturelle et ethnique, pashtun, non pashtun. Et il y a un esprit un peu revanchard de gens qui ont peut-être l'impression d'avoir été exclus des grands mouvements culturels de leur propre pays.
Alors, il y a aujourd'hui, Belrais Jafari, à la vie en Afghanistan, une nouvelle génération dont on dit qu'elle ne veut pas se présenter comme afghane, mais comme persane. Qui sont ces jeunes? Déjà, sont-ils nombreux ou est-ce que c'est vraiment très anecdotique? Et pour défendre quoi?
Oui, donc il y a un mouvement, un courant, parfois un peu minoritaire, mais qui déclenche beaucoup de débats, même au sein des persanophones. C'est que, et là, on peut l'interpréter, l'analyser, vu donc ces quatre décennies de guerre et de conflits qui a intensifié, malheureusement, les fractures sociales interethniques en Afghanistan. Et surtout, ces tensions ont été intensifiées durant ces 20 ans de la République islamique en Afghanistan. Donc, on a parlé de la politique, d'une certaine manière, répression linguistique, voilà ce que ressentent les personnes au fond en Afghanistan, qui a été, d'une certaine manière, et qui était en cours, donc, bien avant aussi 2001, mais aussi durant ces 20 ans, et a été suivie par les talibans. Et c'était par exemple l'interdiction officielle, l'annonce officielle de l'interdiction d'une terminologie particulière. Parfois, par exemple, il y avait des décrets du président de la République, Karzai ou bien Ashraf Ghani, qui précisaient qu'il ne fallait pas du tout dans l'administration, dans les lettres et communications officielles, ou dans les dans l'enseignement supérieur, donc il ne faut jamais utiliser des mots étrangers, tel ou tel. Et là, à chaque fois, dans toutes ces lettres et décrets, on voyait l'apparition d'une multitude de vocabulaire anglais. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune sensibilité par rapport à l'équivalent anglais. Donc toute la sensibilité, le problème vraiment, c'est avec les mots, on dit persan iranien. Et juste pour revenir aussi à la question, donc voilà, donc les talibans, cette répression, donc ce changement des plaques, donc ça a eu lieu, donc ça, maintenant c'est en Afghanistan, dans toutes les ils ont modifié tout au long de ces deux ans et demi, presque 80%, plus de 80% de tous les lieux publics officiers, ça veut dire toutes les écoles, les hôpitaux publics, tous les ministères, ils ont changé, et en grande partie, c'est en pachto et en anglais. Et donc, c'est pourquoi il y avait
beaucoup en anglais. Les talibans ont mis des mots en anglais.
Et c'est pourquoi, comme par exemple, l'université de Mazar, c'était bien en anglais, mais aussi pachto. Donc, c'est pourquoi donc, ça crée beaucoup de tensions, méfiance, beaucoup de méfiance, mais aussi la haine, malheureusement. Et donc, de l'autre côté, donc il y a une réaction de la part de la jeune génération qui essaie un peu de s'affirmer et puis de s'affirmer en tant qu'une identité bien distincte de celle de la culture talibane.
Ils se revendiquent comme persan.
Exactement. Ou bien la langue persane qui forme donc le corps de cette identité. Mais en fait, ils se présentent. Il y a différentes nominations. Par exemple, ils se présentent comme des Khorasani, donc retour en arrière vers l'histoire, donc quand avant l'apparition de l'Afghanistan moderne, le nom d'Afghanistan, là où il y avait grand Khorasan, donc grande ère très très florissante où c'était le persan qui dominait, et c'était le règne de la littérature persane dans la région. Donc il y a par exemple, on peut parler des poètes aussi qui se réclament, qui se présentent comme des Khorasani, mais pas comme afghans.
Qu'elles soient en dari ou en pachto, d'ailleurs, la poésie en pachto, la poésie en Afghanistan est partout. Elle est dans les rues, elle est dans les conférences, elle est dans les interactions au quotidien, elle est dans les chansons.
شیدی ما
La chanteuse afghane Angama, qui vit aujourd'hui au Canada, avec le chanteur afghan Vaid Kassemi, Joyeux Nowruz, chante-t-il « Le temps rit du nouveau jour ». Si tu souris un instant, le pouls du ciel rit avec toi. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série consacrée à Nowruz, nouvelle en Perse, célébrée bien au-delà des frontières iraniennes. Une fête populaire et œcuménique, mais qui permet parfois politiquement de mettre en avant une culture, une identité persane. Cela passe aussi par la langue, comme en Afghanistan, on en parlait, comme aussi au Tadjikistan.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance du Tadjikistan en 1991, le gouvernement a fait de gros efforts pour promouvoir l'usage du Tadjik dans la sphère publique, mais aussi dans la vie privée des habitants. Par exemple, dans ma ville d'origine, certaines rues ont été renommées. Par exemple, la rue Lénine est devenue la rue Samani.
La rue Lénine, devenue Samani, du nom d'Ismaïl Samani, émir perse, fondateur de la dynastie des Samanides, à la fin du 9e siècle, et qui serait le modèle de l'identité tadjik, comme le rappelle ce youtubeur lui-même d'origine tadjik. Depuis son indépendance en 91 et la fin de la guerre civile en 97, le Tadjikistan tente de construire une identité nationale, ça passe par la culture persane, que ce soit la fête de Nowruz, qui est au Tadjikistan un événement national, ou par la langue tadjik, qui est une déclinaison, elle aussi, du persan. Bonjour Mélanie Sadozaï.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Ratisbonne en Allemagne. Alors il faut d'abord se représenter ce qu'est Nowruz au Tadjikistan. Tout le monde le fête?
Oui, absolument. C'est une fête extrêmement importante au Tadjikistan. D'ailleurs, il y a 3 jours fériés qui sont décrétés à cette occasion. Donc, commençons demain. C'est une fête qui est célébrée à la fois dans la sphère, disons, publique, dans les rues, mais aussi dans la sphère privée où les familles, les amis s'invitent. Et donc, ça a aussi été saisi par les autorités tadjikistanaises qui mettent en place tout un tas de célébrations, d'événements, de danses, de festivals pour fêter Nowruz.
Y compris le président du Tadjikistan qui esquisse toujours pour l'occasion quelques pas de danse, alors avec un très grand sérieux. Il ressemble un peu à Brejnev, il faut imaginer, il y a des vidéos qui circulent, il est sur une forme de terrasse, il danse, il est toujours salué d'applaudissements nourris, c'est une vraie fête. Est-ce que les habitants du Tadjikistan et les autorités en place ont le désir de célébrer une fête persane, iranienne, revendiquée comme telle, ou ce n'est pas du tout le propos?
Non, absolument, ça a été saisi dans les discours officiels du président. Alors, votre émission aujourd'hui coïncide avec la prise de parole justement du président à cette occasion. Emom Ali Rahman, voilà, ce matin pour nous, il a pris la parole et donc j'ai regardé son discours et c'est très intéressant parce qu'en fait, il parle de Nowruz, donc en rappelant le symbole du renouvellement, de la nature, de la célébration en fait de la nature, mais il parle aussi de Nowruz comme étant la mémoire historique du Tadjikistan, des Tadjiks, comme étant en fait une valeur nationale. C'est vraiment l'expression qu'il a utilisé au même titre en fait que la langue tadjik. Donc il y a une vraie volonté des autorités et particulièrement du président du Tadjikistan de faire de Nowruz une fête tadjik. Et il n'utilise pas d'ailleurs le terme persan hein, dans son discours, il utilise bien le terme tadjik.
Il n'utilise pas le terme persan. Donc, en effet, c'est intéressant parce que on parle de cette fête de Nowruz comme une fête persane depuis le début. Là, on voit au Tadjikistan une vraie volonté de célébrer à la fois une fête qui est persane dans ses origines, mais dont elles ne sont pas rappelées donc dans les discours politiques, mais aussi de mettre en avant une langue qui est une variété du persan, le tadjik. Les locuteurs de ces deux langues, d'ailleurs, se comprennent sans difficulté. Mélanie Sadozaï.
Alors, en effet, ce qui est intéressant, vous invitez à parler du Dari. Au Tadjikistan, on n'utilise pas du tout le terme Farsi. On utilise bien Tadjiki ou Zabane Tadjiki, donc la langue Tadjik, pour faire référence en fait à cette variété de persans. Alors, les locuteurs afghans, en fait, les persanophones afghans et les Tadjikophones, disons, du Tadjikistan se comprennent sans problème. C'est un peu plus difficile pour les locuteurs iraniens de comprendre les Tadjikophones, tout simplement par manque en fait d'exposition réelle en Iran au Tadjik, alors que au Tadjikistan les locuteurs sont beaucoup plus exposés à la fois aux persans d'Afghanistan et aux persans iraniens. Il faut rappeler que le Tadjik est différent en ce sens que il est bien plus archaïque hein, des autres persans dans sa forme grammaticale. C'est voilà, il y a souvent des persanophones qui disent que le Tadjik sonne un peu comme de la poésie parce que les formes grammaticales sont plutôt anciennes. Et puis il y a eu cette très forte influence du russe dans le vocabulaire. Donc il y a beaucoup de termes techniques qui sont des termes russes qui sont absolument pas utilisés que ce soit en Iran ou en Afghanistan, mais qui sont utilisés en Ouzbékistan où il y a aussi des Tadjikophones.
Alors pour quelles raisons le président Emomali Rahmon, qui est toujours en place depuis 92 au Tadjikistan, pourquoi tient-il tant à ce que cette langue tadjik soit largement parlée, davantage que le russe, qui est la langue couramment utilisée au Tadjikistan après des années soviétiques?
Alors en fait, quand l'indépendance est arrivée, il a fallu pour toutes ces anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, en fait, formaliser une identité propre pour assumer pleinement l'indépendance, se détacher du passé soviétique, et donc il fallait aller puiser en fait dans des symboles. Donc ça passait pour le Tadjikistan, ça passait pour cette langue, ça passait par cette langue tadjik, et donc il y avait cette vraie volonté en fait de non pas créer, parce que en fait, l'identité, elle se fondait sur des réalités vécues par les gens, mais pour formaliser, pour institutionnaliser en fait cette identité nationale. Et donc, ça passait par la langue tadjik, mais ça passait, vous parliez de l'empire des Samanides, donc par la réappropriation en fait d'Ismaël Somoni, qui était ce dirigeant samanide très très fort, très un symbole de puissance et qui donnait une importance très forte aussi aux persans. Et donc dans le discours en fait nationaliste, qu'on peut même qualifier d'ethno-nationaliste du président du Tadjikistan, il fallait à la fois se détacher du passé soviétique, mais aussi, c'est très important, s'opposer en fait, se distinguer au monde turcique des autres républiques d'Asie centrale qui donc dominent. Hein, c'est le Tadjikistan est le seul pays persanophone en fait avec ce passé persan en Asie centrale. Donc il fallait pouvoir se distinguer à la fois de ses voisins et se détacher du passé soviétique sans pour autant en fait rompre de manière très forte avec ce passé.
Donc faire en sorte que cette langue tadjik qui a des origines persanes devienne la langue de l'administration en 2009 par exemple, tout ça s'est fait assez progressivement après la fin de la guerre civile qui a duré de mai 92 à juin 97 au Tadjikistan. Aujourd'hui, qui parle tadjik aujourd'hui, est-ce que ça empêche ceux qui parlent tadjik de parler russe par ailleurs?
Alors aujourd'hui, le tadjik est donc la langue officielle. Donc vous le disiez, hein, c'est la langue qui officiellement on retrouve cette langue dans les documents officiels. C'est la langue d'instruction. Elle est obligatoire d'ailleurs. Hein, donc l'enseignement se fait en tadjik. Donc alors c'est très difficile d'estimer, mais l'énorme majorité des Tadjikistanais parlent tadjik parce qu'ils sont forcément exposés au tadjik, que ce soit à l'école ou à la télévision ou quand ils doivent remplir des documents. Néanmoins, il y a quand même une très très forte part, une très importante part de la population qui est à la fois plurilingue et qui parle russe. Donc, à l'exception évidemment des personnes d'origine russe, parce qu'il y a encore des personnes qui sont d'origine russe et qui sont là depuis l'époque en fait tsariste, qui sont des personnes qui sont monolingues en général, mais le reste de la population est parfaitement plurilingue. Donc on parle soit et tadjik et russe, soit tadjik, russe, ouzbek, voire dans la province du Haut-Badarchan, les langues maternelles sont complètement différentes du tadjik ou du russe.
Il faut continuer de toute façon à apprendre le russe, notamment. Pardon, on arrive à la fin de cet entretien. Mélanie Sadoza, il se trouve qu'il faut continuer aussi à apprendre le russe au Tadjikistan parce que les débouchés en termes d'emploi sont souvent en Russie et le Tadjikistan est l'un des pays les plus pauvres d'Asie centrale. Un tout petit mot pour savoir si au-delà de la langue, le Tadjik, donc langue persane, est-ce qu'il y a une volonté par ailleurs de se rapprocher pour le Tadjikistan de l'Iran politiquement, diplomatiquement, ou c'est un rapprochement qui est vraiment seulement culturel ?
Alors oui, donc pour vraiment préciser, le russe est tout à fait obligatoire à l'école et il y a une demande d'apprentissage du russe par les classes, disons, aisées qui considèrent que le russe est une langue de prestige. Et pour les classes modestes, voire pauvres, c'est en effet en Russie et au Kazakhstan que les débouchés en termes de travail se trouvent. Donc le russe est vraiment en demande, l'apprentissage du russe est en demande. Concernant le rapprochement avec l'Iran, alors en fait c'est une relation qui est faite de haut et de bas. Il y a pas une énorme influence en fait de l'Iran au Tadjikistan. La relation, elle se caractérise par des investissements de l'Iran dans des projets économiques, mais il y a eu beaucoup de tensions et de frictions avec l'Iran. Donc en réalité, le Tadjikistan ne cherche pas forcément à se rapprocher de l'Iran ou en particulier. Et puis la politique en fait étrangère du Tadjikistan, c'est une politique officiellement en tadjik, ça s'appelle la politique des portes ouvertes. Donc ça veut dire en réalité, se tourner vers tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément l'usage de la langue pour se rapprocher de l'Iran.
Merci beaucoup, Mélanie Sadozaï, enseignante chercheuse à l'Université de Ratisbonne en Allemagne. Un mot pour conclure sur l'Afghanistan de nouveau et rebondir sur cette question des liens avec l'Iran. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous nous parliez, Belrez Jafari, à la vie aujourd'hui d'une nouvelle génération qui se revendique persane et non pas afghane en Afghanistan, est-ce que ça intéresse l'Iran de se rapprocher d'une certaine partie de cette population? Une union au nom de la défense d'une civilisation perse, ou ça n'est pas du tout le sujet?
Ça intéresse la population, ou bien plutôt l'élite iranienne, ceux qui sont très actifs, par exemple les écrivains, les poètes, mais pas du tout les dirigeants iraniens, parce que et c'est pourquoi donc il y a beaucoup de réactions et beaucoup de contestation contre ce mouvement qui se réclame comme des Khorasani, qui essaye d'unir d'une certaine manière, de réunir donc tous les locuteurs et les persanophones passer toutes les frontières.
Merci beaucoup. Passer toutes les frontières, on parle d'un monde persan sans frontières, c'est ce dont rêvent certains, et pourtant il y en a bel et bien une de frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Elle fait 920 kilomètres et l'Iran l'a fermée aux réfugiés afghans depuis le retour au pouvoir des talibans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Belrez Jafari Alavi, enseignante à l'INALCO, chercheuse en littérature contemporaine afghane, d'avoir été avec nous. Et merci Alessandro Monsouti, professeur d'anthropologie et de sociologie au Geneva Graduate Institute. Vous avez écrit « Homo itinérance, la planète des Afghans » aux presses universitaires de France. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La bataille judiciaire n'en finit plus, Catherine, aux États-Unis, sur la frontière avec le Mexique.
Et c'est un signe de la tension politique à 8 mois de l'élection présidentielle, alors que l'immigration clandestine est l'un des points de discorde majeurs entre les démocrates et les républicains, comme le souligne le site Politico et la chaîne télévisée CNN. Alors je vous avoue qu'en arrivant cette nuit à la radio, les choses étaient claires. La Cour suprême avait levé hier la suspension de la loi controversée du gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Ce fervent trumpiste avait donné en décembre dernier aux autorités de son État le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique sans autre forme de procès. Avec la Cour suprême, la loi pouvait hier entrer en vigueur et cela faisait d'ailleurs la une du New York Times dans sa version papier. L'administration Biden estime que cette loi texane est inhumaine et qu'elle empiète en plus sur les prérogatives des autorités fédérales, rappelle le Washington Post. Ce ping-pong judiciaire dure depuis des semaines. Alors accrochez-vous. Un juge avait temporairement bloqué la loi texane le mois dernier, estimant qu'elle était probablement probablement inconstitutionnel, mais une cour d'appel du 5e circuit basée à la Nouvelle-Orléans, précise le New York Times, avait suspendu cette décision sans explication. La loi pouvait alors être appliquée. L'administration Biden et les groupes de défense des immigrés ont alors demandé à la Cour suprême de maintenir le blocage de la loi texane. La décision semble avoir été prise à 6 contre 3, explique une spécialiste du droit à la télévision publique américaine PBS. 6 juges conservateurs contre 3 juges progressistes. La majorité a décidé de ne pas suspendre la loi, comme le demandait la Maison-Blanche, le temps de poursuivre d'autres voies judiciaires. En clair, la loi texane pouvait entrer en vigueur cette nuit. Inquiétude des migrants à la frontière avec le Mexique, qui regardaient passer les voitures de police avec crainte, note le New York Times. Coup de théâtre, quelques heures plus tard, une cour d'appel a rendu une ordonnance bloquant l'application de la loi texane, comme l'indique le Houston Chronicle, journal texan. Le 5e circuit, cette cour d'appel de la Nouvelle-Orléans, se réunit encore aujourd'hui. Mais le Washington Post n'a aucune idée de ce qui pourrait en sortir. Et pour CNN, cette incertitude judiciaire alimente le débat politique acharné sur l'immigration, instrumentalisé par Donald Trump, alors que le camp républicain a refusé au Congrès de durcir les textes en matière migratoire. Cette bataille politique et judiciaire sur la frontière avec le Mexique jette un autre éclairage sur la présidentielle de novembre prochain. La Cour suprême, sa composition, son poids sur les lois sont autant d'enjeux de ce scrutin. Une Cour suprême façonnée par Donald Trump sous sa présidence, rappelle le New York Times. Le favori pour le camp républicain demande aujourd'hui à cette même Cour suprême une immunité absolue.
À présent, Catherine, la Finlande consolide sa place dans un concours de choix, celui du pays le plus heureux au monde.
Pour la 7e année consécutive, s'enorgueillit le journal finlandais Ilta Sanomat. Titre décerné par un rapport parrainé par l'ONU, il vient d'être publié et se fonde sur l'auto-évaluation de 100 000 personnes interrogées dans 143 pays. Résultat pondéré aussi par des universitaires qui prennent en compte d'autres facteurs comme les revenus, la santé, la liberté, un faible taux de corruption, précise le journal finlandais Iltalehti, pour qui le bonheur des Finlandais est influencé entre autres par un lien étroit avec la nature et un équilibre entre le temps de travail et le temps libre. Les pays nordiques arrivent en tête des 10 premières places puisque le Danemark, l'Islande et la Suède suivent la Finlande. La France est 27e. Et puis le Wall Street Journal et le Time Magazine s'inquiètent de voir les États-Unis sortir pour la première fois du top 20 des pays les plus heureux au monde. Ils vont à la 23e place. Les jeunes constituent la tranche d'âge la moins heureuse aux États-Unis, montée de la solitude dans un pays polarisé, effet négatif aussi des réseaux sociaux, rapporte le quotidien finlandais Helsingin Sanomat. L'Afghanistan et le Liban arrivent à la fin de ce classement.
Et sur 143 pays, l'Argentine est à la 48e place.
Alors que le président ultralibéral Javier Milei vient de passer 100 jours au pouvoir, retracé notamment par le quotidien argentin Perfil, ce n'est pas un bilan que proposent de nombreux journaux, mais presque un réquisitoire contre le président d'extrême droite. C'est un taliban de l'équilibre budgétaire, écrit El País. S'il veut réduire les dépenses publiques, les retraités en paient le prix avec une réduction de leur pension, le prix des médicaments et des assurances santé privées qui ont explosé. Pauvreté croissante, résume CNN, bien que l'Argentine soit l'un des plus grands exportateurs de produits alimentaires parmi ses 46 millions d'habitants, explique El País, près de 5 millions d'Argentins souffrent de la faim. Et pour le journal El Periodico, une vieille chanson de 1967 résume la situation.
Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.
C'est l'honneur des hommes de protéger ce qui grandit, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enfants éparpillés dans les rues, chantait Mercedes Sosa en 1967, en mettant une étoile à la place de la faim. Sinon, c'est inutile, sinon c'est absurde de parler et de reparler de joie, de chant sur terre. Cela ne sert à rien s'il y a un enfant dans la rue.
Merci Catherine Dutu.